vais d'abord vous dire que c'est un sujet que je n'ai pas choisi moi-même et dont je n'ai perçu la portée que ce soir. Il faut savoir que dans ce genre de choses, donc la limite de nos relations avec les goyim, chaque chose a sa portée. Et qu'on est donc obligé d'arriver à des conclusions. Donc je serai obligé de dire les conclusions exactes. C'est un sujet auquel j'étais obligé de penser ces derniers temps. Et je vais vous dire pourquoi. Et comme ça, on pourra peut-être situer le problème. Vous avez peut-être entendu parler. Il y a un homme qui est décédé il y a 15 jours, qui s'appelait Michel Barouin, qui était mon ami, et avec lequel j'ai eu des discussions pour lesquelles nous sommes arrivés à certaines conclusions. Et je crois que pour introduire le débat, on est obligé de regarder ces conclusions-là. Cet homme, Michel Barouin, était un franc-maçon, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la recherche de ce qu'ils appellent l'éthique. Comment peut-on fonder une morale ? Vous savez que les peuples de la Terre se sont toujours demandé quelle est la morale à adopter. Il y a eu différentes morales qui ont été adoptées, mais le problème auquel ils se sont tous heurtés, c'était celui de savoir comment fonder la morale. Fonder la morale, cela veut dire comment pouvoir dégager philosophiquement un besoin et une nécessité de la morale qu'on est en train de dégager. Et cet homme-là était arrivé à la conclusion que sans métaphysique, en vérité, ça n'est pas sa conclusion à lui, c'est la conclusion d'un philosophe qui s'appelait Sartre, que sans métaphysique, il est impossible de fonder une morale. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a deux façons de voir les choses. Et ces deux façons, cette antinomie est ce qui nous oppose à la civilisation occidentale qui nous entoure. Ce que nous appelons bien, eux, ils l'appellent mal. Et ce que nous appelons mal, ils l'appellent bien. Ça ne se situe pas seulement au niveau du langage. Et je vais vous donner un exemple. Il y a encore plusieurs dizaines d'années, en France, l'adultère était passible d'une peine pénale. Aujourd'hui, non seulement il n'est plus passible de cette même peine pénale, mais il n'est pas considéré comme quelque chose de mal à partir du moment où celui qui s'y livre a l'assentiment du couple. Le mal et le bien étant donc définis par ce qui fait mal à l'homme et ce qui lui fait du bien. Dans la civilisation occidentale, et c'est la raison pour laquelle on n'arrive plus à fonder de morale, tout ce qui fait du mal à l'homme, tout ce qui peut lui occasionner une douleur s'appelle le mal. Ce qui ne lui fera pas de mal, ce qui lui fera du bien ou lui occasionnera une certaine jouissance ou un certain bonheur, s'appellera le bien. À partir du moment où je ne fais pas du mal à mon voisin, et que je ne me fais pas du mal à moi-même, c'est-à-dire une douleur à moi-même, il n'y a plus de notion du bien ou du mal. Alors que chez nous, dans la Torah, c'est exactement l'opposé. Il y a une organisation du bien ou du mal qui est définie par la Torah, que l'on appelle la mitzvah et la avera. La mitzvah étant le bien, la avera étant le mal. Et l'homme, non seulement ne peut pas décider lui-même de ce qui est bien et de ce qui est mal, mais pour l'homme, ce qui est bien ou ce qui est mal, la référence sera ce qui est catalogué comme bien et comme mal par la Torah. On dira que l'adultère est mal, pas parce que cela fait du mal au mari, Parce qu'objectivement, il existe une notion de bien et de mal. Donc un premier exemple, de ce qui dans la civilisation nous entoure est un bien, chez nous c'est un mal. Il y a encore un deuxième exemple. Vous savez que nous dans le Hallel, dans les Tehillim, nous disons Yassor Yisra Nika Vlama Vetlo Netanani. Yassor Yisra Nika veut dire Dieu m'a éprouvé. Va'elokim Nisa et Abraham, Dieu a éprouvé Abraham. On a mis devant lui une barrière, il a fallu la surmonter. On met devant l'homme un problème, une douleur, une peine, et il doit la surmonter. Nous, nous appelons ça Tov, nous appelons ça bien, c'est le but de la vie. Alors que dans la civilisation qui nous entoure, on appelle ça justement le mal. La maladie, c'est le mal. On ne recherchera pas pourquoi est-elle venue. On ne se posera pas le problème de savoir est-ce que Dieu produit le mal ou non. Puisqu'il y a un événement qui occasionne une douleur, cela s'appellera le mal. Alors que dans la Torah, justement, il est possible que ça, ce soit le bien. Donc ce que nous appelons Tov, bien, eux, ils l'appellent mal, Ra. Et ce que nous, nous appelons Ra, eux l'appellent le bien. Là est la première difficulté du dialogue. C'est la raison pour laquelle tous les hommes parmi les goïms qui ont été dans la civilisation qui nous entoure, il est possible que dans d'autres civilisations, les civilisations asiatiques ou hindoues, ça je ne les connais pas, il est possible qu'il y ait d'autres critères, mais dans la civilisation qui nous entoure, et c'est ça le sujet qui nous préoccupe, il est impossible de fonder une morale. Pourquoi est-ce qu'il est impossible de fonder une morale? Parce qu'à partir du moment où le critère du bien et du mal est ce qui est bien pour l'homme et mal pour l'homme, il est difficile de réussir un critère objectif qui soit bien pour tous les hommes et mal pour tous les autres. Ce qui me fait du bien, il est possible que cela fasse du mal à l'autre. Donc, on n'a pas de possibilité de fonder de morale. C'est la raison pour laquelle cet homme-là disait que on ne peut fonder une morale que lorsqu'il y a une métaphysique. C'est-à-dire lorsqu'il y a un but qui transcende le bonheur de l'homme. Lorsque l'on discutait avec cet homme, il en arrivait toujours à la conclusion que la morale juive étant fondée sur la métaphysique, le non-juif d'aujourd'hui ne pouvait pas y adhérer. Parce qu'il ne pouvait pas se désolidariser, il ne pouvait pas se séparer de ce qui nous entoure. On ne peut pas vivre aujourd'hui en France, être un homme politique, et avoir une idée du bien ou du mal qui est fondée sur une métaphysique parce qu'on ne parle plus le langage de tout le monde. On ne parle plus le langage de l'État, on ne parle plus le langage de la loi, on ne parle plus le langage des hommes qui habitent la France. C'est la raison pour laquelle il m'avait dit un jour, s'il y avait encore un seul homme en France comme Aimé Palière, Aimé Palière était un homme qui avait accepté les 7 mitzvot de Bnei Noach, les 7 lois noachides, et me disait, s'il y avait encore un seul homme qui acceptait les 7 mitzvot noachides, moi je serais le deuxième. De là on voit la difficulté, l'impossibilité pratique qui existe pour un homme de pouvoir vivre dans un monde avec des idées inverse de ce monde-là. Je vous parle de cet homme-là, de ce Michel Barouin, parce que il ne faut pas croire qu'il n'y a que les Juifs qui réfléchissent et qu'il n'y a que dans notre communauté des hommes qui peuvent arriver à des critères moraux. Il y en a d'autres que l'on appelle tzadiké umot haolam, c'est-à-dire des gens qui se sont distingués de la croyance populaire et des façons d'agir populaires, et qui ont aussi transcendé par leur derrière, par le chemin personnel, comme Abraham Avinu, ce que le judaïsme veut apporter au monde. Seulement, ça n'est pas la société. La société, elle doit être basée sur les critères actuels des données morales. On va donner un autre exemple. ce qui était passible de prison, comme l'avortement, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, aujourd'hui, c'est un acte médical remboursé par la sécurité sociale. Donc on ne peut pas fonder une morale à partir du moment où le critère de cette morale est le bien ou le mal. On a dit que le mal était traduit par la sensation de douleur ou le fait de ne pas arriver ou de ne pas pouvoir arriver au bonheur. À partir de ce moment-là, on est obligé de changer ses critères selon l'idée qu'on se fait du bonheur ou du malheur. Ça, c'est pour situer le problème. Lorsqu'on parle de la limite de nos relations avec l'égoïme, on est obligé donc de parler non seulement de ce désaccord, mais de cette mésentente totale, même au niveau des mots. Ce que j'appelle bien, il appelle mal. Ce que j'appelle mal, il appelle bien. Donc on ne peut pas s'entendre. Mais on va essayer d'aller plus loin encore. Comment est-ce que nous nous fondons ? Avant d'essayer de voir comment les autres le fondent, comment est-ce que nous nous fondons la notion du bien et du mal ? Vous savez que nous nous posons, philosophiquement, dans la Torah, que Dieu est incapable de produire le mal. C'est la raison pour laquelle nous disons dans le verset « Yotzer or ou bore rocher » Dieu Yotzer or est celui qui produit la lumière ou bore rocher, celui qui permet à l'obscurité. Ose shalom, celui qui fait la paix, ou vore et qui permet et tara le mal. Le mal ne s'appelle pas Yotzer une Yotzira. Parce que le mot Yotzira, la création, est employé dans la Torah pour la création de l'homme. Va Yitzer, Hashem Elohim et Adam. Dieu a créé l'homme. Le mot Va Yitzer est marqué avec deux Yud. Et les Chachamim disent deux Yud parce que l'homme a été créé Ben Bolam Azé, dans ce monde-ci, l'Olam Abba, et il a une capacité existentielle pour le Olam Abba, pour le monde futur. Ça, c'est ce que nous appelons une Yetzira. C'est-à-dire quelque chose qui a un but. Ra, le mal, bien qu'il existe dans le monde, nous l'appelons une Beria, c'est-à-dire une possibilité d'existence, mais qui n'émane pas d'un but qui vient de Dieu. Nous posons donc, nous, dans la Torah, que Dieu est incapable de créer le mal. Comment est-ce qu'on peut le justifier ? Comment est-ce qu'on peut le fonder philosophiquement ? On va le fonder d'une façon très simple. Lorsque je me sens obligé de commettre une action qui est mal, elle ne peut être que dans un but qui n'est pas le mal en soi. Lorsque ce qui me fait plaisir, cela fait mal à l'autre, je ne lui fais pas mal parce que le but de l'opération est de lui faire mal, mais je lui fais mal parce que le but de l'opération, c'est de me faire du bien. Il ne peut pas exister le mal pour le mal. Le mal n'est pas un but, ça n'est qu'un moyen. Il n'existe aucune action qui soit entreprise par l'homme dont la finalité est le mal. C'est seulement que lorsque l'homme se déplace, il pense que certains buts justifient certains moyens et que donc il lui est permis de faire du mal. Nous allons donc dire que la différence entre le tov de ce qui est marqué dans la Torah, vehine tov meod, que l'homme est tov meod, est bon. Le tov, c'est ce qui a un but. Le ra, ça n'est pas quelque chose qui a été créé pour un but, ça n'est qu'un moyen. Et lorsqu'on dit moyen, on dit obéir à nécessité. Obéir à désir ou obéir à besoin. J'ai besoin de faire le mal parce que cela peut me procurer du bien. Celui qui n'a pas de besoin, il n'utilise pas un moyen. Il ne va que vers le but. Le moyen, c'est un moyen de satisfaire un désir ou un besoin. À partir du moment où je pose que Dieu qui a créé le monde, ça n'a pas été par besoin, il n'a pas de besoin, il ne peut pas faire le mal. Qui dit moyen, dit besoin d'employer ce moyen-là. celui qui n'a pas de besoin n'a pas de shayahut, c'est-à-dire n'a aucune disponibilité pour un moyen appelé mal. Si c'était un but peut-être, quelque chose qui ne correspond pas automatiquement à un besoin. Mais un moyen, c'est quelque chose qui correspond à un besoin. J'ai besoin de faire quelque chose, alors je vais passer par ce moyen qui est le mal. Celui qui n'a pas de besoin, n'a pas besoin d'utiliser ce moyen-là qui s'appelle mal. C'est la raison pour laquelle nous allons définir que la différence entre le tov et le ra, le bien et le mal, c'est que le mal, c'est ce qui va à l'inverse du tahlit, à l'inverse du but de la création, et qui n'est qu'un moyen, alors que le tov, c'est ce qui va dans le sens du but de la création. Et ça, c'est marqué dans une Gemara, dans Sanhedrin. Dans le traité de Sanhedrin, la Gemara dit ceci. Sha'al Antoninus, le Rabbi Antonin, a demandé à Rabbi. Rabbi Yehuda Nassi, le rédacteur de la Mishnah. À partir de quand le besoin que nous appelons Yetzer Hara, et on va essayer de le définir, à partir de quand ce besoin du mal, ou ce penchant vers le mal, ou cette inclinaison vers le moyen qui s'appelle mal dans la Torah, naît chez l'homme? Est-ce que c'est au moment de la conception ou au moment de la naissance? Rabbi lui a répondu, c'est au moment de la conception. Et Antonin lui a dit, si c'est ainsi que le ra, le mal, est déjà en l'homme au moment de la conception, imken boed beme imo veyotse, c'est-à-dire le fœtus devrait sortir avant terme. Parce qu'il aurait déjà ce besoin d'aller contre le but qui est le sien, c'est-à-dire de rester 9 mois dans le ventre de sa mère. Donc nous voyons que le rat, c'est ce qui va à l'inverse du but qui a été fixé et que nous retrouvons dans la nature par le Créateur. Voilà comment la Torah détermine le bien et le mal. C'est la raison pour laquelle il y avait un homme qui s'appelait Er, Aïn Resh, les mêmes lettres que Ra. Et dans la Torah nous dit qu'il était Ra, Vaihi Er Ra Bene Hashem. Cet homme-là était mauvais. Il était mauvais pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu avoir d'enfant. Et il a utilisé les possibilités qui sont données à l'homme de procréer pour sa propre jouissance. Il a donc fonctionné en circuit fermé. Il a donc utilisé un but comme un moyen. Celui qui utilise un but comme un moyen, c'est ce que nous appelons le rat. Le mal, ce qui va à l'inverse du but fixé. Le but étant fixé pour l'homme et non pas par l'homme. Lorsque j'utilise un moyen qui m'a été donné pour arriver à un but, que je détourne ce moyen pour ce que la civilisation qui nous entoure appelle le bonheur, nous appelons ça rat, alors qu'eux l'appellent Tov. Nous avons donc fondé que le seul et unique critère de la Torah pour définir ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est bien, c'est ce qui va dans le sens du but fixé par Dieu pour la création de l'homme. C'est-à-dire le Olam Haba, le monde futur. Tout ce qui va dans ce sens, nous l'appelons bien. Que ça fasse mal ou que ça fasse du bien, nous l'appelons Tov. À chaque jour de la création, Dieu a vu ce qui a été créé et a dit « Vehine Tov », c'est-à-dire ça obéit au but fixé. Lorsque le moyen d'obéir à ce but fixé a été retourné par l'homme pour jouir de ce moyen pour son propre bonheur, pour nous c'est un circuit qui est fermé, qui ne mène à rien. Parce que obéir à un désir ne peut pas être le but de la création. Parce que si on n'avait pas créé l'homme, il n'aurait pas eu ce désir, il n'aurait donc pas eu besoin d'obéir au désir. Donc on ne peut pas dire que ce soit le but. C'est que ce désir est un moyen d'arriver à un certain but. À partir du moment où je le retourne en tant que finalité, je détruis le but dans lequel Dieu a créé l'homme. C'est ce que nous appelons le rat. Alors que la civilisation qui nous entoure, au contraire, elle va appeler ça Tov, puisque cela me fait du bien. et ça ne fait pas du mal à l'autre, alors c'est bon, c'est tov. Nous, nous appelons ça justement ra. Donc on voit la première difficulté de la communication. À partir du moment où l'on légalise le fait que l'humanité n'ait pas de but, et que le seul but de la création de l'homme soit ce qui lui fait du bien, et qui pour nous n'est que l'obéissance à un désir ou à un besoin, pour nous, cela n'a plus de sens. Pour eux non plus, cela n'a pas de sens, puisqu'ils posent comme hypothétique un sens pour l'humanité. Donc ce qui est, pour cette civilisation occidentale, l'organisation de la civilisation sur des bases du bon, de la morale, pour nous, elle est organisée sur les bases du rat, du mal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va essayer d'aller un peu plus loin dans le raisonnement, on va voir jusqu'où nous mène ce raisonnement-là. Nous, nous avons dit, nous avons effleuré ce qu'il y a marqué dans les Tehillim, dans les psaumes, Yasor Yisra Nika Vlama Vetlonetanani. Mot à mot, Dieu m'a éprouvé, Vlama Vetlonetanani, mais il ne m'a pas enlevé la vie. On retrouve la même idée dans un verset de la Megillat Echa, qui a été dite par le prophète Jérémie au moment de la destruction du temple. Ma yitonen Adam Vachai. De quoi peut se plaindre l'homme qui vit? Rashi traduit là-bas. Maïtonen Adam, le chol akorot abaim alav. De quoi peut se plaindre l'homme de tout ce qui lui arrive, puisqu'il vit? La valeur de la vie. La valeur de la vie, pour la civilisation occidentale, c'est l'acceptation d'un fait dû au hasard. Ça n'a donc aucune valeur. La vie n'a de valeur que parce que c'est un droit individuel. Un droit né du hasard, mais un droit individuel. Je ne peux pas ôter la vie à quelqu'un sans lui demander son autorisation. Mais lui, et si lui-même me donne l'autorisation, lui-même peut enlever cette vie, et moi je peux la lui enlever. Pour nous, c'est une chose qui n'existe pas. Non seulement elle n'existe pas, mais il y a une chose qui vaut tout. Et c'est ça le sens du verset « Maïtonen Adam Vachai ». De quoi te plains-tu puisque tu es vivant? C'est que la vie, dans n'importe quelle situation, elle a un sens, puisqu'elle n'est pas le fait du hasard. Donc la situation elle-même dans laquelle je me trouve, aussi difficile et éprouvante qu'elle soit, c'est ça ma vie. Et cette vie-là, je suis obligé de lui donner un sens. Et on va expliquer. Il est écrit à propos d'Abraham Avinu. Lorsque Abraham a réalisé qu'il existait un créateur, Dieu lui est apparu. Et Dieu lui a dit, « Lech lecha me'artzecha » Tu vas t'en aller de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Elle a arrêté sa chair à réca vers la terre que je t'indiquerai. Cette terre, c'est Eretz Kenan, Eretz Israël. Les commentateurs demandent pourquoi la première fois que Dieu s'adresse à un homme qui vient de le reconnaître, Abraham Avinu, il lui donne une mitzvah. Il ne peut pas lui indiquer où est-ce qu'il va. Elle a arrêté sa chère Areka vers la terre que je t'indiquerai, Abraham ignorait où est-ce qu'il allait. Dans quel sens cette mitzvah a été donnée pour que la première soit une mitzvah dont on n'indique pas le but? Et les Chachamim répondent et nous disent ceci. À partir du moment où un homme a une mitzvah, un but à atteindre, qui lui a été donné par le Créateur, la mitzvah en elle-même est un but. Elle ne fait pas partie d'un projet qui ne le concerne pas. La mitzvah elle-même, son but est d'être une mitzvah. C'est-à-dire d'obéir, aller dans le sens du Créateur. Que tu ailles en Eretz Israël ou en Égypte ou n'importe où, c'est la même mitzvah. Maintenant, il y a un but à cette mitzvah-là. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'Égypte et Eretz Israël. Mais ce but-là est secondaire par rapport à la mitzvah elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on réfléchit vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe quelle situation, à partir du moment où elle a été révélée ou elle a été créée par celui qui m'a donné la vie, elle se justifie en soi. Et elle appelle mon adhésion parce que c'est la vie elle-même. Dans quel sens elle va? C'est déjà un effet secondaire. Chaque situation, pas seulement une mitzvah. Il sera la même chose dans ce que nous appelons les nisyonot, les épreuves. Je ne peux pas dire, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Demain, ça ira mieux. Aujourd'hui, c'est la vie comme demain. Et aujourd'hui a le même but que demain. C'est-à-dire que je ne peux que me situer par rapport à la situation qui m'est donnée. Maïtonen Adam Vachai. De quoi te plains-tu puisque tu vis? Cela veut dire, il est impossible de choisir sa propre vie puisque le but qui a été donné à la vie me transcende. Ce que moi je dois faire, c'est d'essayer de me mesurer à cette vie-là qui m'est proposée. Donc je ne peux pas dire qu'il y a une portion de vie qui n'a pas de valeur. Il y a quelque chose ici qui n'est pas centré vers un but. Parce que chaque instant, de le vivre, c'est le but qui m'a été demandé par le Créateur. Maïtonen Adam Vachai, de quoi te plains-tu puisque c'est ça ta vie? Tu aurais préféré en avoir une autre. Mais l'autre n'aurait pas été la tienne. L'autre aurait obéi à un autre but que le tien. Ça, c'est parce que l'idée que la Torah veut nous donner ici, elle est très simple. L'homme a été créé dans ce monde-ci, et non pas directement dans le monde futur, pour pouvoir partager certaines choses avec Dieu. On ne peut pas être interlocuteur sans avoir passé par quelque chose. Si je n'ai pas les mêmes bases, ces bases, ce sont les mitzvot de la Torah. Ce sont l'utilisation que nous devons faire de notre vie. Si je n'ai pas ces mêmes bases-là, je ne peux pas avoir les mêmes valeurs. Ce que Dieu appellera un jour Tov, je l'appellerai Ra. Ce que lui appellera, je l'appellerai Tov. Pour avoir ces mêmes valeurs, je suis obligé de me mesurer avec ce qu'il a appelé la vie. C'est la raison pour laquelle, en hébreu, le mot Chaim ne veut pas dire la vie. En vérité, le mot Chaim veut dire l'indépendance. Pourquoi? Parce que vous avez un verset dans la Torah où il est marqué que celui qui est impur pour se purifier, on doit lui verser Mayim Chaim, de l'eau vivante. Et les Chachamim nous demandent, est-ce qu'il y a de l'eau morte et de l'eau vivante? La réponse est de l'eau de source qui n'a pas été recueillie, qui est donc indépendante, qui coule indépendamment de ma volonté. Ce n'est pas moi qui la verse. Ça s'appelle Mayim Chaim. C'est comme ça que l'on peut comprendre le verset Va'atem advekim bashem elokechem. Vous qui êtes attachés à Dieu, Chaim kulchem ayom, vous êtes tous vivants. Celui qui n'est pas attaché, il est vivant aussi. Chaim veut dire indépendant. L'homme, en passant par le Olam Hazeh, par ce monde-ci, acquiert des valeurs qui deviennent les siennes. Il acquiert une indépendance. Celui qui a une indépendance de pensée peut échanger une pensée avec l'autre. Celui qui n'a pas d'indépendance de pensée ne peut pas avoir d'échange avec l'autre. Pour avoir cet échange, qui sera un jour le nôtre dans le monde futur avec Dieu, il faut avoir quelque chose qui nous appartienne. Il faut avoir une certaine indépendance et nous appelons ça Chaim. Maintenant, on va mesurer l'éloignement des deux civilisations. Ce que l'autre appelle le hasard, la vie dont il pense être la victime, parce qu'il ne l'a pas choisie, l'épreuve dont il pense que c'est un accident, dans cet accident qui est la vie, nous appelons ça la mitzvah, la vie elle-même, l'indépendance. Ce que lui appellera ra, pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens. Ça ne va pas dans le sens de ce qu'on appelle aujourd'hui le bonheur. Nous appelons ça la mitzvah. Et la haaretz asher areka. Tu n'as pas besoin de savoir où est cette terre. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a une terre quelque part qui t'appartient et tu dois y aller. Que ce soit celle-ci ou celle-ci, c'est secondaire. Ça fait partie des tnaïm, ça fait partie des conditions de la vie. Mais ça n'est pas la vie elle-même. La vie elle-même, c'est d'y aller. Où aller, c'est une condition de la vie. Donc non seulement, ce que lui appelle Tov, je l'appellerai, ce que lui appellera, je l'appelle Tov, mais ce que lui pense être un accident, là où il pense être une victime, là, moi, je suis obligé de voir mon indépendance totale. Je ne suis maître que de ça. Le troisième effet, il est encore plus grave. Vous allez essayer d'expliquer à un non-juif la valeur de mettre les tefilines tous les jours. On va lui expliquer, on va lui dire, voilà. Ukshartam le'ot al yadcha vayu le'totafot benenecha. Un homme est obligé de soumettre sa pensée et ses actions à Dieu. Pourquoi? Parce que qu'il le veuille ou non, il a été créé, il fait partie de l'ordre de nature. Et dans cet ordre de la nature, il est soumis à Dieu. Pour obéir à cet ordre naturel, lui-même, tous les matins, va mettre des tefilines. Au moment où il met les tefilines sur son bras, il décide donc que ce bras ira dans le sens de ce que Dieu a prévu pour lui, ce que Dieu lui a demandé, de ce qui pour lui va être l'indépendance, de faire de lui un interlocuteur valable, la même chose pour la tête, pour la pensée. La première question, c'est que le goy va vous demander, mais et sans tefilin, tu ne peux pas arriver au même résultat. Fais la même chose, sans mettre les tefilin. Un jour, il est arrivé une histoire, c'était il y a une cinquantaine d'années, dans la ville de Strasbourg, vous savez que pour porter le Shabbat, le fait de porter étant un des 39 travaux interdits le Shabbat, le rabbin de la ville était allé demander aux autorités, au maire, la permission d'entourer la ville par un fil que nous appelons aujourd'hui le Hérouv. Il a essayé d'expliquer au maire pourquoi est-ce qu'il avait besoin de ça. Et lorsqu'il a essayé de m'expliquer la différence entre le domaine privé et le domaine public, il lui a dit, si vous avez tellement d'imagination, essayez aussi de vous passer de ce fil. Ça veut dire, la valeur de l'acte, elle est inexistante. Il n'y a que de valeur de la pensée. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Lorsque je commets un acte qui n'est pas en rapport avec ma pensée, cet acte-là ne reflète en rien ma personnalité. Ça, tout le monde est d'accord. À partir du moment où cet acte-là va être en accord avec ma pensée, c'est moi qui l'ai dirigé. La raison pour laquelle il a une valeur, c'est parce qu'il traduit ma pensée. Donc enlève l'acte et garde la pensée. C'est-à-dire que l'acte, ça n'est seulement ce qui va révéler la pensée. Mais si je suis sûr de ma pensée, je n'ai pas besoin d'acte. Nous pensons tout à fait autrement. Il y a dans la Torah trois choses. La machashava, la pensée, le dibour, la parole, le maase, l'acte. La pensée, elle n'est pas toujours et pratiquement jamais caractérisée comme la mienne à partir du moment où elle n'est que pensée. Pourquoi? Je vais lire un livre sur un thème où l'auteur me donne une idée. Donc je pense cette idée-là. C'est la mienne ou celle de l'auteur? Le fait de penser quelque chose ne veut pas dire que c'est intégré. La pensée aussi, ça n'est qu'une fonction. Lorsque quelqu'un me dit quelque chose, et que je pense à ce qu'il me dit, ça n'a aucune relation avec moi. Lorsque je parle, je suis déjà plus engagé, parce que j'ai déjà traduit. Lorsque je vais le traduire en acte, alors l'acte, c'est mon acte à moi. Tant qu'une chose n'a pas été traduite en acte, ça n'est qu'une réflexion. Et cette différence entre la réflexion et la pensée, entre l'engagement de la pensée et la réflexion, c'est ce qui fait que la Torah demande dans la plupart des mitzvot un acte. Parce que sinon la pensée, ça n'est qu'une réflexion. Et une réflexion, elle n'engage en rien l'homme qui réfléchit. Ça, c'est une chose qui pour un occidental est totalement absurde. Dans la Torah, on nous dit, tu vas avoir des tzitzit. Tu vas accomplir la mitzvah des tzitzit. Tu as un habit à quatre coins, tu vas mettre des francs. Vous les verrez, vous vous rappellerez des mitzvot. Alors l'autre qui va voir ça, il va dire, c'est un pense-bête. C'est-à-dire, toi, lui et moi, je fais un mouchoir. Dans mon mouchoir, je fais un nœud. Et toi, tu mets des franges. La différence, elle est essentielle. C'est que lorsque c'est un pense-bête, j'ai donc décidé de me rappeler ce que je veux me rappeler. Alors que justement, les tzitzit, c'est pour se rappeler ce dont je ne veux pas me rappeler. Ça, c'est la valeur de l'acte. C'est que je m'engage à me rappeler ce que je ne veux pas me rappeler à l'occasion où je n'ai pas envie de m'en rappeler. Ou ruitem otam, ou zachartem. Alors l'autre vous dira, mais si tu ne veux pas t'en rappeler, t'en rappelles pas. Et à ce moment-là, on voit que de nouveau, tout est basé sur une décision personnelle de ce qui engage l'homme ou ne l'engage pas. Donc cette incompréhension se situe à trois niveaux totalement différents. Le premier niveau, c'est que le langage n'est pas le même. Nous avons dit ce que j'appelle bien, il appelle mal, ce que j'appelle mal, il appelle bien. Le deuxième niveau, c'est dans le maasé lui-même. C'est-à-dire que mon action, elle a une valeur parce que chaque fois que j'agis, je suis dans le sens d'une indépendance et c'est ça ma vie. Je ne vis pas dans le hasard. Je ne suis victime de rien. Et la troisième chose, c'est qu'à partir du moment où j'ai décidé que la vie, ça n'est pas un hasard, c'est quelque chose qui m'interpelle et qui me demande une action, le niveau auquel je me situe, il est dans chaque action, chaque chose a de la valeur. De même que dans le temps, chaque seconde a une valeur. De même dans l'action, chaque fois que je me déplace, ça a une certaine valeur. Parce que moi, je n'ai pas tellement de temps pour me déplacer. Et le temps qui m'est imparti, je peux le traduire en action, c'est-à-dire je le traduis en un keli, en un ustensile, duquel je fais une action, duquel je crée quelque chose. Alors que l'autre qui n'est que victime du temps, sa seule réaction sera, puisque je suis une victime, autant profiter au maximum de ce temps-là, parce que je ne sais pas ce qu'il y aura après. Il va donc exactement dans le sens contraire de ma réflexion. Dans le Rambam, Ilchot Deot, Maïmonide, il est marqué ceci. Teva Adam, il est de la nature humaine. Liot Nimshach, Achare, Reav, Vechaverav. D'être entraîné par ses amis et ceux qui les entourent. C'est la nature humaine, derer briato shel Adam. La nature humaine est de partager avec l'autre. Cette idée-là, elle est dans un autre livre qui s'appelle le Kuntra Sasfekot, au nom du mari Muscato. Il dit l'idée suivante. Si on donnait à l'homme la possibilité d'aller dans l'infini, de contempler toute la nature, de tout comprendre, mais qu'ensuite on lui disait, tu ne peux plus redescendre, tu ne peux partager avec personne ce que tu as vu, il y renoncerait. Parce que ce que je ne peux pas partager, ça n'a pas de valeur. La nature humaine, elle est faite comme ça. Pourquoi est-elle faite comme ça? À partir du moment où Dieu a décidé que l'homme ne serait pas seul au monde, il ne l'a pas mis seulement en tant que victime des réactions de l'autre. Il n'a pas mis l'autre seulement pour l'éprouver, pour essayer de savoir s'il va faire le bien ou le mal avec l'autre. Il lui a donné aussi une possibilité formidable. C'est que chaque chose qu'il aura, elle n'aura de valeur que s'il peut la partager avec l'autre. Et à partir de ce moment-là, on peut les mettre les deux ensemble. On ne peut mettre quelqu'un devant l'épreuve et l'autre, c'est mon épreuve. À savoir si je vais lui procurer ce dont il a besoin ou je vais me servir de lui pour ce dont j'ai besoin, je ne peux faire face à cette épreuve qu'à partir du moment où j'ai une derer briato, c'est-à-dire mon instinct est, que je ne peux jouir de quelque chose que lorsque je le partage avec lui. Ça, c'est derer briato chez la dame, ça, ce que dit le Rambam. C'est pour ça que le Rambam continue, il dit ceci. Le fichach, c'est la raison pour laquelle un homme doit toujours... Il dit, un homme doit être mitraber etzel atzadikim. Il doit s'associer avec celui dont il pense qu'il est juste. Veleishev etzel achachamim tamid. Et faire de sa vie une yeshiva, c'est-à-dire une acquisition de quelque chose, etzel achachamim chez les chachamim. Il doit s'asseoir devant les chachamim toujours. Voilà la traduction littérale du Rambam. Dit le Rambam, si jamais il n'arrive pas à trouver là où il habite, le cadre dont il a besoin, les gens avec qui il peut partager, alors il doit s'en aller. Et si dans le monde entier il n'arrive pas à trouver, alors dit le Rambam, il doit aller dans le désert. Comme il est marqué dans le prophète Jérémie, « Mi yitneni bamidbar melon orechim » Si jamais on me donnait une possibilité d'habiter dans le désert, va esva et ami, j'abandonnerai mon peuple, qui kulam naafim atziret bogdim, c'est-à-dire ce sont des gens que je ne veux pas fréquenter. Ça, c'est la nature humaine. Lorsqu'on parle des limites, des relations qui peuvent exister avec l'égoïme, on va se confronter à ce problème-là. De la nature de l'homme découle que lorsqu'il a quelqu'un en face de lui, que ce soit un juif ou un goy, il a un besoin de partage. Qui dit besoin de partage, dit des deux côtés. L'autre aussi, il a un besoin de partage. Lorsque je partage quelque chose avec lui, il a pris une moitié de ce que j'avais, mais moi aussi j'ai pris une moitié de ce qu'il avait. Alors comment est-ce que je vais, moi, partager quelque chose avec un homme avec lequel je ne peux pas parler? Puisque ce que j'appellera, il l'appelle Tov. Ce que j'appelle Tov, il l'appellera. Voilà la difficulté. Attention, c'est pour ça que j'ai commencé à vous raconter cette histoire de Michel Barouin. Il existe ce qu'on appelle Tzadik et Umot Haolam. Il existe des gens qui peuvent avoir le même langage que nous. Seulement ces gens-là, ce sont des gens qui eux-mêmes regrettent d'être seuls et de ne pas pouvoir partager leurs idées, et qui, à cause de ça, se conduisent et agissent comme les autres. C'est pour ça qu'il m'avait dit un jour, s'il y avait un seul aimé palier en France, alors je pourrais être le deuxième. Mais d'être le seul, c'est impossible. La conclusion à laquelle on est donc obligé d'arriver, on peut la traduire en deux mots. Il n'y a que deux possibilités. Ou ce qu'on appelle le ghetto, ou Eretz Israël. Il n'est pas d'autre possibilité pour nous. Nous n'avons aucun avenir avec des gens avec lesquels nous ne pouvons pas communiquer. Ce que je peux faire, c'est l'utiliser. Parce que lorsque j'ouvre un magasin, s'il n'y avait pas de goy, j'aurais pas de client. Parce que tout le monde sait que le juif, c'est un mauvais client. Ça n'est pas un échange. Ça n'est pas une façon de vivre. Ça n'est qu'un moyen Ça n'est pas une possibilité d'arriver au but qui est le nôtre. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu Avraham Avinu, la première chose qu'il lui a dit, Lech Lecha, tu vas t'en aller. Mais Artsecha de ta patrie, de la maison de ton père, puisque ton père ne te comprend pas. Lech Lecha, tu t'en vas. Où est-ce que tu vas partir, c'est secondaire. Il n'est pas possible de partager quelque chose avec celui dont je n'ai pas le même langage. Ce qui a marqué qu'Avraham Avinu ne pouvait pas devenir un peuple là où il était, c'est justement parce que lorsque on a de communication qu'avec quelqu'un qui ne vous comprend pas, il dit le Rambam derer biato chez la dame, c'est que je deviens comme lui. C'est pour ça qu'il a été obligé de partir. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de possibilités. La seule possibilité pratique, c'est Eretz Israël. Celui qui veut vivre d'une façon qui soit la sienne indépendante, ne peut que faire ce qu'a demandé à Kadosh Baruch ou à Avraham Avinu. C'est-à-dire de pouvoir devenir un peuple d'une façon chayim, c'est-à-dire indépendante. Il n'y a pas d'autre possibilité. La deuxième possibilité, qui est celle du ghetto, c'est une possibilité qui est condamnée à plus ou moins brève échéance. Elle peut être un pis-aller dans le sens où il peut exister des endroits dans le monde, et cela existe. En France, c'est plus difficile, mais en Amérique, on le voit. Qu'on puisse vivre une vie juive qui soit indépendante. Et là, on va voir la différence qui existe entre notre cadre et celui que l'on voit autre part. En France, la civilisation française fait que le français est xénophobe, c'est-à-dire que pour pouvoir participer, on doit s'assimiler. À partir du moment où vous voulez créer un groupe autonome, on va faire comme Pharaon a fait pour les Bnei Israël. C'est bon, les plus intelligents, on ne va pas jeter les enfants à la mer. On va faire qu'il n'y ait pas d'enfants, on va leur enlever les allocations familiales. Tout celui qui n'est pas français, qui ne peut pas s'agréger à ce qu'on appelle la communauté française, celui-ci est condamné à plus ou moins brève échéance. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin centralisateur qui fait que le français a toujours voulu que le pays soit mené selon une certaine idée. Le français ne veut pas que la France soit seulement celle qui gère ses intérêts. Il veut aussi qu'elle soit, comme ils disent, un flambeau parmi les nations, c'est-à-dire qu'elle ait un but culturel. Qui demande un but culturel demande assimilation de tout celui qui participe à ce but culturel. Aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. On est prêt à considérer l'État comme le gérant des intérêts du particulier. C'est l'antisocialisme primaire, c'est vrai. Mais c'est comme ça. C'est ce qui fait que chaque fois qu'une société a un but culturel, les Juifs n'ont jamais pu s'y maintenir, comme aujourd'hui en URSS ou dans les pays de l'Est, puisqu'il y a un but culturel affirmé, c'est le communisme. En France, le but culturel affirmé, c'est la civilisation française. Jamais les Juifs n'ont pu se maintenir. Il n'a jamais existé, en France, une ville juive, un quartier juif. C'est une chose qui ne peut pas exister. Non seulement c'est une chose qui ne peut pas exister, c'est qu'on ne peut même pas prononcer le mot de la communauté juive, puisque vous savez que Giscard d'Estaing, lorsqu'on l'a interrogé sur la communauté juive, a dit qu'il ne voulait pas faire une insulte aux juifs et les déterminer en tant que communauté. Il n'existe que la communauté française. À partir de ce moment-là, il est impossible de se développer si on n'est pas un marginal, si on n'est pas un sauvage. Et c'est là que le Rambam dit, et c'est là qu'on voit à propos d'Avraham Avinu, tu veux te développer, alors il faut aller dans un cadre qui est le tien. On ne peut pas être un marginal et donner naissance à un peuple. C'est pas possible. Un marginal, il va rentrer un jour dans la marge. Ça n'est pas lui, ce seront ses enfants. Donc la seule possibilité actuelle qui nous reste, c'est où le ghetto ou Eretz Israël. Puisque nous savons que le ghetto est une solution qui est condamnée, puisque nous espérons tous que le Mashiach va venir, à partir de ce moment-là, ça n'est pas la peine d'acheter deux billets d'avion différents. Il vaut mieux d'acheter tout de suite un billet. Ça veut dire que la seule solution pour nous, c'est Eretz Israël. Ce qui ne veut pas dire qu'en Eretz Israël même, il n'y ait pas des sous-groupes, il n'y ait pas différentes sociétés. Seulement là-bas, c'est un droit. Ça n'est pas une tolérance. Là-bas, celui qui lutte pour imposer ses idées, ou celui qui lutte pour qu'on le laisse vivre selon ses idées, il lutte pour un droit. Alors que celui qui fait la même chose ici, il lutte simplement pour une tolérance. Et ça, c'est condamné à plus ou moins brevet. Lorsque je suis obligé de lutter, il n'existe pas de vie sans lutte. Même en Eretz Israël, celui-là ira habiter à Bnei Brak, et l'autre ira habiter à Yerushalayim, chacun cherchera son groupe. Et il sera obligé de lutter pour se maintenir. Et ces derniers temps, on observe que les luttes deviennent de plus en plus dures. Parce que les intérêts deviennent de plus en plus égaux. Plus on a affaire à deux groupes qui tendent à être égaux dans le nombre, plus la lutte devient dure. Mais au moins cette lutte-là, c'est une lutte de quelqu'un qui a un avenir là où il est. Alors que tout ce que nous construirons ici comme ghetto, et c'est le sens dans lequel essaye d'aller la communauté française, avant on ne s'affirmait pas comme juif, aujourd'hui on veut avoir la reconnaissance de cette communauté-là, c'est-à-dire qu'on veut avoir le droit de vivre à part, on veut avoir le droit de vivre selon ce qu'on pense et ne pas être assimilé à la communauté française, ce droit-là, à plus ou moins brève échéance, est condamné à l'échec. Pourquoi ? Parce qu'il va à l'encontre des intérêts de la nation. L'intérêt de la nation, c'est de pouvoir donner une animation culturelle à ses habitants. Et ici, cet intérêt-là, lorsque nous nous demandons une tolérance en tant que juifs, nous allons contre cet intérêt. Alors on peut faire un lobby, mais ça c'est condamné à plus ou moins brève échéance. En attendant, puisqu'on sait très bien que même celui qui a le billet dans sa poche, et presque chacun a déjà un billet dans sa poche, mais on ne va pas tout de suite le présenter au comptoir. La seule façon de pouvoir vivre avec cet entourage, c'est d'avoir conscience à chaque moment que le langage que nous nous employons, c'est exactement le langage du patron vis-à-vis du client. Mais ça n'est pas un vrai échange. À partir du moment où nous pensons que cet échange-là devient vrai, c'est que nous nous assimilons. Lorsque je suis dans une affaire et que je dois traiter avec l'autre, l'autre, je le regarde comme un objet. Je ne regarde pas son intérêt, je regarde mon intérêt. Je le regarde simplement comme celui qui va m'apporter ce dont j'ai besoin. Lorsque je lui demande même de la culture, lorsque je lui demande même de la pensée, lorsque je lui demande des renseignements qui soient informatiques ou autres, je ne fais que l'utiliser de cette façon-là. À partir du moment où il ne me donne pas le droit de vivre à part, je suis en train, pardonnez-moi l'expression, mais je suis en train de le parasiter. S'il était possible de construire un lobby qui serait comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il existe des villes juives et des quartiers juifs, et que ce soit un droit reconnu dans l'intérêt de la nation, alors à ce moment-là, j'apporte ma pierre à la contrition nationale et je vis comme un citoyen. Mais à partir du moment où je considère l'autre, qu'il soit juif ou non juif, comme un moyen de m'apporter le renseignement dont j'ai besoin, mais que mon but non affirmé, c'est de vivre à part, alors à partir de ce moment-là, je parasite. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas à longue échéance vivre comme un parasite. Parce qu'on se détruit soi-même, parce que celui qui parasite l'autre, le non-juif, va finir par parasiter le juif aussi. Donc si on est d'accord d'aborder ce problème, si on est d'accord de voir, dans les trois éléments que nous avons donnés, que ce langage est impossible, il n'y a que la fuite en avant. Seulement. Parce que les choses ne sont jamais simples. Nous avons un but quand même. Il est écrit dans la Gemara, dans Psachim.
Tzedaka.
Asa Kadosh Baruch Hu im Israël, chez Pizran ben Haumot. Dieu, lorsqu'il a exilé les Bnei Israël, leur a fait un chesed, leur a fait une bonté. On aurait pu imaginer autre chose. Après la destruction du temple, on aurait pu imaginer une autre forme du clan Israël. On l'a imaginé dans la galoute, dans le pizour, c'est-à-dire chacun à part. Pourquoi chacun était à part? Parce que vous savez que le deuxième temple a été détruit, à l'inverse du premier, à cause des fautes ben Adam la Chavero, c'est-à-dire de l'homme vis-à-vis de son prochain. Le premier temple a été détruit à cause des fautes vis-à-vis de Dieu. C'est la raison pour laquelle le peuple entier a été exilé au même endroit, en Babylonie. Ce qui a produit un des plus grands monuments de la littérature juive, qui est la Gemara, le Talmud. Mais le deuxième exil est venu à cause de Sinat Rinam, c'est-à-dire l'impossibilité de coexister. Tu ne peux pas vivre avec l'autre, alors chacun va vivre dans son coin. Pizran ben Haumot. Mais, nous dit la Gemara, il y a quand même un chesed. Il y a quand même eu un but là-dedans. Que des sheyitvasvu aleihem geirim. Dans cette situation, peuvent s'agréger au peuple d'Israël des guérim, des gens qui se convertissent. C'est la manière qu'a Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il conduit l'histoire, de récupérer les neshamot, de récupérer ces âmes qui étaient au Har Sinaï, qui se sont perdues parmi les nations. Ça s'appelle un chesed pour le clan d'Israël, c'est une obligation pour nous. Il est écrit dans le Midrash, dans la parasha de Vayikra, à propos du verset, Vim lo yagid venasa avono. Il est marqué là-bas, Im lo yagid, celui qui connaît un témoignage en faveur de l'autre. Im lo yagid, s'il ne va pas témoigner, venasa avono, il supportera sa faute. Et nous dit le Midrash, Im lo tagidu elokiutu ibaolam. Si vous ne promulguez pas, vous n'allez pas. Et vous ne dites pas que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui nous a donné la Torah sur le mont Sinaï. Im lo tagidu, im lo yagid. Si vous ne témoignez pas, venasa avono, vous porterez votre faute. Nous avons un message. Ça veut dire qu'à partir du moment où je pense être condamné à vivre avec l'autre, où je pense ne pas encore avoir les moyens d'aller là où je dois aller, bien que nous sachions que c'est la seule possibilité, mais nous savons très bien que la communauté française, ça n'est pas 700 000 personnes qui vont faire leur alia. La seule façon en attendant de vivre, pour celui qui ne peut pas, qui n'arrive vraiment pas à s'en sortir, c'est de comprendre que non seulement il n'a pas le même langage que l'autre, mais qu'il est là pour lui apporter quelque chose. Il est là pour être un exemple. Il est là, Imlo tagidu elokitu baolam. Si vous n'êtes pas capable de porter ce témoignage que vous avez en vous, alors venasa avono. C'est vous qui serez coupable. Ça, c'est encore plus difficile. Pourquoi c'est encore plus difficile? Parce qu'on ne peut témoigner de quelque chose que si on reflète un petit peu son propre témoignage. Si dans ma relation avec l'autre, je ne me conduis pas comme la Torah m'a demandé de me conduire, je ne peux apporter aucun témoignage. C'est arrivé un jour, il y avait un élève de la yeshiva qui est arrivé au service militaire. Et au bout de 15 jours, le capitaine me téléphone, me dit, écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On ne peut pas porter l'uniforme parce qu'il y a du lin et de la laine. Alors j'ai essayé de lui expliquer. Je lui ai dit, vous savez, il m'a dit, bon. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, ben, vous envoyez le vêtement et on va analyser pour voir est-ce qu'il y a du lin dedans. Il m'a dit, je suis tout à fait d'accord, mais j'ai juste un petit problème à vous soumettre. Pourquoi pour en arriver là, d'abord il était fou, ensuite il était malade, après il ne pouvait pas s'intégrer aux autres, il a demandé un psychologue, et en fin de compte on me demande de vérifier le lin. À partir du moment où moi je ne reflète pas un certain message, il ne peut pas passer. À partir du moment où ma conduite ne reflète pas ce témoignage-là, alors ce témoignage est nul et non avenu. Pourquoi ? Parce que, en même temps, je témoigne de son inutilité. C'est la raison pour laquelle ça ne porte pas. Il y a un homme qui s'appelait Noir. Tout le monde connaît l'histoire de Noir. Dieu lui a demandé de construire une Teva, de construire une arche. Il lui a demandé de la construire lui-même, sans l'aide de ses enfants, sans l'aide de sa famille. Et il a mis 120 ans pour la construire. Rashi nous dit, pourquoi est-ce qu'il a mis 120 ans pour la construire ? Pour pouvoir montrer aux autres qu'il y allait avoir un déluge et qu'il fallait changer de conduite. 120 ans ! Et en fin de compte, il est rentré seul dans la Teva. Pourquoi ? Alors vous regarderez le Rashi un tout petit peu après, il y a marqué que Noir est rentré dans la Teva, Mipne Mehamaboul, à cause de l'eau qui commençait à l'envahir. Et Rashi nous dit, Noir, Ma'amin Veno Ma'amin. Il y croyait, mais il n'y croyait pas vraiment. C'est pour ça que lorsqu'il y a eu les premières gouttes, il s'est dit, peut-être c'est pas le déluge. Peut-être ça n'existera pas cette histoire de déluge. Lorsqu'il en a eu jusqu'au cou, il est rentré. Pendant 120 ans, il a prêché chose que Ma'amin Veno Ma'amin. Alors après, on ne peut pas s'étonner qu'il était seul à rentrer dans la Teva. Puisque lui, au moins, d'un côté, il était oui, Ma'amin. Mais ce côté n'a jamais passé. Qu'est-ce qui a passé de l'autre côté ? Le Eino Ma'amin. Le côté où on n'y croyait pas. À partir du moment où on pense à avoir quelque chose à donner à l'autre, on est obligé de lui montrer que ce quelque chose tient, que ce quelque chose a une valeur, qu'on a trouvé la réalisation. Parce que sinon, on ne peut pas lui demander à lui de faire quelque chose que moi, je n'arrive pas à faire. Donc, celui qui reste ici, il a une responsabilité énorme. Que dès « Sheit vasfualem gerim », c'est à lui de provoquer chez l'autre. Pas de provoquer chez l'autre en lui proposant le mariage, de provoquer chez l'autre en lui montrant qu'est-ce que c'est qu'un juif. Parce qu'il y a une façon de faire des guérims, ça on la connaît. Mais cette façon-là, ça n'arrive pas à faire des guérims qui soient vraiment des guérims. Parce que celui qui se convertit au judaïsme, il devient un juif comme l'autre juif. Et la façon dont il a été converti, c'est de cette façon qu'il sera juif. S'il a été converti pour se marier, le seul moment de sa vie où il aura été juif, c'est le moment du mariage. À partir du moment où la raison pour laquelle il se convertit, c'est parce qu'il a vu que le juif c'est quelque chose d'autre, alors lui aussi deviendra autrement. C'est ça, Shit, Vasfu, Aleem Geri. C'est Tagidu Elokuti Baolam. C'est en portant un certain témoignage, c'est pas en proposant le mariage. Donc il y a des sujets où on est obligé d'arriver aux conclusions qui s'imposent. Et je dirais même plus, que si on veut être honnête, ça n'est pas seulement au niveau individuel, parce que c'est facile toujours d'accuser les individus. C'est même au niveau des institutions. À partir du moment où les institutions ne reflètent pas ce qu'on attend de celui qui porte le témoignage du Har Sinaï, on ne peut pas demander non plus à la communauté de porter ce témoignage. Lorsque le seul reflet de la cacheroute dans le journal Le Monde, c'est de savoir la valeur de la taxe et les bagarres qui se suivent pour le partage de la taxe, alors à ce moment-là, on ne peut plus parler de cacheroute. À partir du moment où on veut se maintenir dans une certaine position, même si la seule raison, c'est parce qu'on n'a pas le choix, parce que soi-disant, on ne peut pas partir en Eretz Israël. Et chacun essaie de savoir si sa raison est valable de ne pas partir. À partir de ce moment-là, on est obligé d'avoir des institutions et on est obligé de créer une communauté qui réponde à l'attente de cette communauté-là qui est Ben Haoumot, qui est entourée des autres. Si on n'est pas capable de ça, alors au lieu de commettre un Chilul Hashem, au lieu de montrer aux autres ce dont on n'est pas capable, alors il vaut mieux construire des murailles, des grandes murailles pour qu'ils ne puissent pas nous voir. Mais si on veut pouvoir se maintenir, on est obligé de créer ces institutions. On est obligé de créer un cadre qui soit celui où ceux qui s'expriment, c'est ce qui a été dit au Mamad Har Sinai, ce qui a été dit lorsqu'on a donné la Torah, pas ce qui est dit maintenant, et qui ne fait que rebuter les autres. Alors je vais répondre d'abord à la question qui m'est la plus personnelle. Il m'est d'autant plus facile, et je voudrais mettre tout le monde à l'aise, de dire que la seule solution qui peut exister pour nous, c'est Eretz Israël, puisque depuis le moment où j'ai mis les pieds en France, je n'ai eu, personnellement, je n'impose pas aux autres, qu'un seul besoin, c'est de retourner en Eretz Israël. Et la seule raison pour laquelle je suis ici, c'est que, pour essayer de ne pas retourner seul, mais que les autres, dont leur aventure se serait terminée à l'église, puissent retourner avec moi. Ceci étant posé, je m'étonne un petit peu, non seulement des constatations, mais du genre des questions. Nous nous avons posé, nous avons dit, et c'est ça ce que dit le Rambam, Teva Adam, Bederer Briato Shel Adam, c'est-à-dire qu'il est impossible de vivre honnêtement avec l'autre sans partager. Alors, je vais essayer de savoir qu'est-ce que je peux partager. Et chacun va essayer de savoir qu'est-ce qu'il partage avec le non-juif en partageant le même langage sans parler la même langue. Ou en parlant la même langue sans partager le même langage. Ici, il est difficile de faire des constatations, mais chacun pourra le faire seul. Combien chaque juif a-t-il de non-juifs avec lesquels il se livre à ce qui lui est cher? Combien a-t-il dans la société française de gens qui comprennent ses problèmes? Et même si ça peut arriver au niveau individuel, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé en disant que cet homme, ce Michel Barouin qui est mort il y a une quinzaine de jours, c'était mon ami. Mais ça, c'est une chose qui est impossible au niveau de la communauté juive. Puisque justement, la communauté française refuse même le mot de communauté juive. Alors pourquoi vivre au milieu des gens qui nient votre existence? Et encore, on va dire qu'on parle le même langage? Lorsqu'on leur parle de notre existence, un juif ne peut pas vivre seul. Et c'est là où je répondrai à la question de l'indépendance. Nous nous avons dit, indépendant oui, mais je ne peux être indépendant qu'à partir du moment où j'ai quelqu'un avec qui je peux partager. Mais lorsque je n'échange quelque chose avec l'autre, qui n'est pas un partage, c'est simplement que je l'utilise lui, mais qui me renie moi dans ma condition. Alors qu'est-ce que je fais? J'attends qu'un jour il vienne me dire, tu es un parasite. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'attendre ça? J'attends qu'il vienne me dire, mais le jour où tu avais une conversation sérieuse, tu allais avec un juif, tu es parlé avec moi. Le jour où toi, dans ta communauté, tu parlais, tu essayais de te réunir, tu ne m'as pas invité, tu ne voulais pas que je vienne. Tu as peur du mariage mixte. Tu ne veux pas de moi. Ça, on ne peut même pas lui parler, on ne peut même pas lui dire. On ne peut même pas expliquer à un goy pourquoi on ne peut pas faire un mariage mixte. On ne veut même pas lui parler de ça. Alors, à partir de ce moment-là, on vit sur un quiproquo. Et parce qu'on parle la même langue qui est le français, on dit qu'on vit avec lui, on ne vit pas du tout avec lui. On essaye simplement de faire notre trou ici et de profiter au maximum de l'occasion qui nous est donnée. Avec des gens qui nous renient en tant qu'entité, qui nous permettent de vivre individuellement, mais à condition que nous partagions également avec eux ce que nous partageons avec les juifs. Et ça, nous ne le voulons pas. Nous ne sommes pas d'accord d'organiser une bar mitzvah et que la moitié des invités soient des goyim. Alors à ce moment-là, il vous dira, mais tu vis en communauté qui n'est pas la communauté française. Et moi, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dis, oui, mais c'est par hasard, parce que c'est mes voisins, mes amis. Mais en vérité, je ne peux pas parler le langage qui m'est propre. Qu'est-ce que je peux échanger avec lui? Des informations. Qu'elles soient médicales, qu'elles soient informatiques, qu'elles soient financières. Qu'elles soient... Je peux être dans le même coup que lui. Mais je ne peux absolument pas le faire participer à ce qui est ma vie personnelle. Dans le travail, je peux travailler avec lui, parce que pour moi, le travail, c'est qu'un moyen. J'attends les loisirs, lui aussi, il attend les loisirs. Tous les deux, on s'ennuie. Mais à partir du moment où moi je vais essayer de déterminer mon loisir, alors moi je vais être entre juifs, je ne veux plus être avec le goy. Mais c'est ça la vie. La vie, ça n'est pas le travail. Donc, on peut considérer que l'existence est possible. Seulement attention, on est obligé de vivre sur un quiproquo qui, le jour où il sera révélé dans toute son acuité, ce sera ou la création d'une communauté juive, chose à laquelle la France, depuis qu'elle existe, n'a jamais adhéré, et depuis la Révolution française n'adhéra sûrement jamais, ou alors de s'en aller. Parce qu'il ne faut pas croire. Il y avait un jour, ce Michel Barouin est dirigé ce qu'on appelle la Fondation de l'Homme Citoyen. Et il y avait dans cette Fondation de l'Homme Citoyen un comité des sages, dans lequel, bien que n'étant pas sage, je faisais partie. Et il y avait là-bas le nonce apostolique du pape, il y avait là-bas le président de la Confédération protestante, il y avait là-bas un philosophe qui s'appelle Henri Laborite. Et un jour, il m'a posé une question très simple. Il m'a dit, expliquez-moi exactement ce que font les juifs en France. Il m'a demandé, est-ce que ce qu'on raconte, ces histoires de cinquième colonne et tout ça, dites-moi vraiment la vérité. Pourquoi le juif ne s'intéresse pas à la politique française, mais son vote est uniquement centré sur le fait que Giscard d'Estaing regarde Israël avec des jumelles, ou se mette en Israël pour regarder la Jordanie avec des jumelles? Qu'est-ce que c'est que ce lobby juif? À quoi ça sert tout ça? Pourquoi vous ne vous intégrez pas à la communauté française? Moi, je n'ai pu lui répondre qu'une seule chose. C'est que la différence entre le juif et le français, elle est simple. C'est que le juif a un avenir et que le français n'en a pas. Notre avenir, nous, c'est le Mashiach. Tout le reste, ça ne nous intéresse pas. Ce sont les conditions de la vie. Ce qui pour vous est un problème vital, l'organisation de la société française, pour nous, ça a à peu près la même valeur que de savoir si je vais habiter un pavillon en appartement ou si les papiers peints vont être bleus, rouges ou verts. Vous comprenez que ce n'est pas notre souci principal. Nous, notre souci, c'est l'avenir. Celui qui n'a pas d'avenir, il met toute son énergie dans l'organisation présente de la société. Mais celui qui a un avenir, il essaye de savoir comment arriver à cet avenir. Peu lui importe si la société est organisée comme ci ou comme ça, il ne regarde que son intérêt. C'est la raison pour laquelle le juif ne peut pas s'intégrer. Il y a un moment, il ne faut pas croire que tous les autres sont bêtes, où ils se posent cette question. Et ils vous la posent, et il faut y répondre. Lui était poli. Et il m'a pas dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous vous organisez un avenir avec des gens qui n'en ont pas, en faisant semblant de vous préoccuper, parce qu'on leur fait croire qu'il y a un vote juif et tout? C'est-à-dire qu'il y a un moment, on est obligé seulement de leur dire que d'être citoyen, c'est une communauté d'intérêt. Ça, ça peut aller dans un pays anglo-saxon. Ça peut aller dans un pays neuf, où des gens différents ont créé un pays dont l'État ne gère que les intérêts individuels. Mais en France, ça ne peut pas aller. Donc on ne peut pas leur faire croire qu'on parle un langage différent, mais la même langue, ce n'est pas vrai. On ne peut leur faire croire qu'on participe, on s'intéresse, on est préoccupé, mais en fin de compte, ils se rendent bien compte que la seule chose qui nous intéresse, c'est comment rester un peuple juif parmi les autres, sans se mêler aux autres et sans échanger quoi que ce soit, si ce n'est des informations qui nous servent, et attendre le Mashiach le plus vite possible. Donc, on ne peut pas croire que ces gens-là, toujours on va arriver à leur servir le quiproquo, à leur raconter des histoires. Et la situation avant où le juif était dans le ghetto, elle était plus saine. Le juif demandait une tolérance. Laisse-moi habiter ici, échange minimum avec toi, construis un mur autour, j'aurai pas le droit de sortir la nuit, fais tout ce que tu veux, laisse-moi vivre tranquille. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de tenir ce langage-là. Et il ne tiendrait plus ce langage-là. Parce qu'il y a une révolution française, il y a des idées dans l'air. Il n'y a pas seulement une communauté d'intérêt. À partir de ce moment-là, on doit savoir qu'on est condamné à plus ou moins vos sciences. Maintenant, le problème de savoir, dans le verset, il y a marqué Yotzer or uvore chosher, ose shalom uvore tara. C'est dans le sidour de la tfila où nous disons le matin, pour ne pas dire uvore tara, justement à cause de cette confusion, qui peut être que Yotzer et tara au lieu de bore tara, que les rachamim ont changé et ont mis la bracha bore et akol, pour ne pas dire bore et tara. Parce que, on dit lo yagur chara, ça veut dire que le nom d'Akadosh Baruch Hu n'est pas sur le rat. Pourquoi est-ce qu'on appelle Yetzer? Yetzer, à part le mot Yetzira, veut aussi dire le mot désir. C'est ce que nous disons le matin dans le Uva le Tzion, Shomra zot, le yetzer marchevot le vav amecha. Yetzer ne veut pas dire penchant, là-bas. Yetzer marchevot, ça veut dire selon le désir des marchevot. Yetzer atov, yetzer ara, c'est le désir qu'a l'homme de faire le bien ou faire le mal, c'est ça qu'on appelle les deux yetzer. Mais dans l'étymologie du mot, c'est vrai qu'il y a une différence entre yetzira et bria. C'est pour ça qu'on dit yotzer or et seulement vorechosher. En ce qui concerne, je ne sais pas ce qui se passe avec le papa lion, pas le papa lion, je vais vous dire. Mon problème à moi, il est très simple. De faire des critiques sur la communauté, c'est simple. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'il y a une volonté de changer et est-ce qu'on est capable de changer. Ce qu'a dit le grand rabbin, il a dit, il n'a pas dit, je ne sais pas. Si c'est un juif qui a écrit l'article, c'est un goy qui a écrit l'article. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'image que nous nous donnons, ça n'est pas l'image qu'on attend de nous. Maintenant, d'essayer de savoir l'histoire des amitiés judéo-chrétiennes, je vais vous dire. Il y a des gens que lorsque vous allez dans leur salon, ils vous montrent qu'il y a une trappe au milieu, il ne faut pas marcher. Mais il y en a d'autres, ils la couvrent d'un tapis. Alors quand vous marchez, vous tombez. Alors, en vérité, c'est là qu'il faut éclaircir le débat. Amitié judéo-chrétienne, pourquoi pas? Le juif, il n'a reçu que les coups des chrétiens. Bien sûr qu'il est d'accord d'être ami. Le problème, c'est pourquoi l'autre veut être ami? Alors, c'est vrai que il y a parmi eux beaucoup de juifs convertis qui cherchent à se justifier. Ou non, mais ça, c'est pas les chrétiens dans l'amitié judéo-chrétienne, ça, c'est les juifs dans l'amitié judéo-chrétienne. Parce que le juif ne peut jamais se convertir. Le juif, il restera toujours un juif. Israël, Shechata, Afalpi, Shechata, Israël. Le juif, ça reste un juif. Il peut s'appeler chrétien, il peut tout ce qu'il veut, ça reste un juif. Le problème est un petit peu autre. À partir du moment où quelqu'un qui vous a tapé dessus, il veut faire ami avec vous, il n'a pas besoin de vous marquer qu'il veut faire ami à l'occasion de la réunion de l'amitié. S'il est ami, alors on ne marque pas qu'on est ami. Celui qui a eu un ami goy, il ne lui a pas dit, tu sais, je viens à 3h l'après-midi pour être ami. À partir du moment où on dit que c'est pour être ami, ça veut dire qu'on est des ennemis. Alors si on est ami de 3 à 4 et qu'on est d'accord qu'on est ennemi de 2 à 5, c'est pas la peine. C'est ça le vrai problème de l'amitié judéo-chrétienne. C'est que toute chose, pour être vraie, elle doit être naturelle. À partir du moment où elle n'est plus naturelle, c'est plus la peine. Tu veux t'intéresser au judaïsme? Intéresse-toi au judaïsme. Qu'est-ce que tu me fais une amitié? Pas une amitié. On est amis, pourquoi on ne serait pas amis? À partir du moment où on est obligé de dire qu'on est amis, c'est qu'on n'est pas amis. Lorsque deux personnes se bagarrent, après ils disent, on fait amis. Mais ils le disent une fois. S'ils le disent 20 fois, ça marche plus. Ah, maintenant, le problème du temple de Jérusalem, ça pourrait faire l'objet de nos débats. Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas le temple? Ça, c'est des problèmes techniques très difficiles. Je ne sais pas si le problème est là. Le problème est surtout qu'à partir du moment où si maintenant, Bémet, on avait le temple, qu'est-ce qu'on en ferait? C'est ça le problème. C'est-à-dire avoir le temple, il faut aussi savoir quoi en faire. Il faut aussi se conduire comme des gens qui peuvent en faire quelque chose. Si le temple a été détruit, il n'a pas été détruit parce qu'on n'avait pas assez de mitraillettes pour se défendre ni contre Nabucodonosor ni contre Titus. Il a été détruit, nous le disons dans la Amida, Mipne, Chataynu, Galinu, Me'artzinu. Il a été détruit pour une certaine raison. À partir du moment où nous corrigerons cette raison-là, il sera reconstruit. Comment il sera reconstruit? Par qui sera reconstruit? De quelle façon il sera reconstruit? Ça, pour l'instant, ce n'est pas notre problème. De même qu'on ne sait pas soucier comment il va être détruit, par qui il a été détruit, comment il a été détruit, pourquoi il a été détruit, nous devons simplement nous soucier d'une chose. Est-ce que nous pouvons être des gens qui ont un rapport avec ça? À partir du moment où nous aurons ce rapport-là, il viendra. Maintenant, c'est vrai qu'on doit s'intéresser, on doit savoir quels sont les critères et pourquoi, est-ce que techniquement, est-ce qu'on peut le construire, on ne peut pas le construire, mais ça peut faire l'objet d'un autre débat. Il y a marqué dans la Torah, Vachal Tamizivro. Si tu manges avec lui, qu'est-ce qu'il y a marqué après? Venatata, Bitra, tu donneras ta fille à ton fils et ton fils à ta fille, mais on n'a pas le droit de manger avec lui. C'est marqué un passage une fois dans la Torah. Premièrement, c'est pas. D'abord, on ne peut pas dire que ce qui a été donné par le Nevim, ce qui a été donné par la Torah, ça c'est une étude compliquée qu'il faut faire. Mais c'est évident que la Torah, elle demande, non seulement elle demande un dénouement total, mais elle dit que Maase Eretz Mitzrayim Asher Yeshavtem Ba. Pourquoi est-ce que je vous emmène en Eretz Israël? Pour que vous ne restez pas influencés par les Maasim que vous avez vus en Eretz Mitzrayim. Donc c'est pas pour s'approcher des Mitzrayim. Tout Eretz Israël, ce sont des nations qui ont une conduite immorale, et qu'on a demandé de tuer à cause de leur conduite immorale, non seulement de ne pas partager l'existence avec eux, mais de même de les tuer, de les exterminer, l'autre chaye kol neshama, et de leur prendre leur terre. Donc on ne peut pas avoir un rapport plus affectif et plus paisible avec le goy. Maintenant, Urita Chiti, il faut savoir que Chiti, ça veut dire qu'il venait d'une famille de Chitim, puisque la Gemara dans Gittin au commencement dit que, et c'est ça toute une souga dans la Gemara, que Uri, en partant, il a donné le get, Kolayotse le Milchemet Ben David, Noten get crie toutes les Ishto. Donc ça n'était pas un goy, c'était un juif, parce qu'un goy ne doit pas donner un get à sa femme. Donc même Uri Achiti, ça n'était pas la même chose. Il est vrai qu'on voit une différence entre, ça c'est une des choses qui est vraie, c'est Avraham Avinu. Qu'Avraham Avinu, on a vu qu'il essaie, il n'a jamais demandé si c'était des juifs ou des goyim, mais il faut savoir qu'Avraham Avinu, lorsqu'il a vu Lot, qui était de sa famille, la façon dont il se conduisait pour un petit gazelle, qu'est-ce qu'il a chapardé une pomme à l'étalage. Il lui a dit, Ima imina vasmila, si tu vas à gauche, je vais à droite. Au contraire, invite-la à manger, établis un langage avec lui. On est obligé de comprendre ceci. Chaque fois que dans mon rapport avec lui, je lui apporte quelque chose, c'est-à-dire que je lui montre une voie à suivre, à ce moment-là, le rapport est positif. Chaque fois que dans mon rapport avec lui, il est pour moi impossible de lui montrer une voie à suivre, mais c'est simplement un échange qui fait que je perds ma moitié, lui perd la sienne, à ce moment-là, le rapport il est impossible. Lot, Abraham Avinu a compris que ce n'était pas la personne dont on pouvait arrêter le chapardage. Donc il a dit, tu t'en vas. On n'a pas de langage. Si j'arrive à établir un langage, c'est parce que je pense que j'ai quelque chose à apporter ou j'ai quelque chose à recevoir. Ce rapport avec l'égoïme que nous disons, ça n'est, non seulement ça n'a pas été créé par un prophète, Vatem ti ulis gula mikolam, toute la Torah est pleine du fait que le peuple d'Israël est à part. Kiratem amat mikolamim, le chiyud eretz, tout, ça montre qu'on doit être à part. Le problème est de savoir maintenant, à partir du moment où je me sais à part, et je suis capable, moi, d'avoir une machashava qui est comme une passoire, c'est-à-dire que je suis capable de filtrer toutes les données qui rentrent chez moi. Et je suis capable aussi de filtrer toutes les données qui sortent. Alors non seulement je n'ai pas besoin d'avoir peur de l'échange, mais cet échange est bénéfique. Mais lorsque je ne suis pas capable, et c'est ça ce qu'avait compris Bilam, qu'est-ce qu'il a fait Bilam? Bilam il a compris, il a dit « Amène-leur Moab !» Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Moab? Quel est le problème avec Moab? « Vayechel am liznot » Ils sont devenus comme Moab. Moab c'est quoi? C'est le znout, la prostitution. « Vayechel am liznot » Ils ont commencé comme ça. Chaque fois qu'on a vu qu'on s'est rapproché, et Shlomo Ameler, non seulement on ne peut pas amener d'exemple de Shlomo Ameler, mais c'est la seule chose qu'on n'a jamais reproché au monde. On a reproché à Shlomo Ameler d'avoir pris des femmes qui étaient des femmes non juives et d'avoir amené la Avodah Zara chez lui à la maison. Donc on ne peut pas dire qu'on a encouragé ce genre de choses. Ce qu'on peut faire, et c'est pour ça qu'on a dit qu'il existe ce qu'on appelle des tzadik et omotaola, il existe des rapports qui peuvent être, mais à partir du moment où nous sommes capables, dans ce rapport, dans ce monde apporté, mais de savoir avec qui nous les échangeons. Mais que ce soit au niveau du clan Israël, le fait de vivre ensemble, justement notre indépendance, c'est de pouvoir garder notre machashava entière. À partir du moment, et c'est ça ce que dit le Rambam, que le Derbi Ato chez la dame, il dit « Noeg que Anshe Medinato ». Un homme a l'habitude de se conduire autrement que ce qu'il pense. Il se conduit en animal social, il se conduit de la même façon que l'autre se conduit lorsqu'il pense le contraire. C'est ça ce que la Torah avait évité. C'est ça ce que la Torah dit. « Vachalta mizifro !» Tu commences, tu manges avec lui, et ensuite ta fille va se marier avec son fils. Ça, cette interdiction, on peut quand même pas dire que dans la Torah, c'est le mariage mixte est permis. À partir de ce moment-là, puisqu'on a fait cette différence doit s'établir au niveau de ma machashava. Si je suis capable, moi, d'avoir un échange honnête, et bien ça arrive, mais seulement avec cette tzadik omotaola. Alors non seulement, c'est ça ce qu'a fait Avraham Avinu, mais lui il est parti de Haram, est un nefesh asher asu b'Haram, il y avait une multitude de gens que lui il a acquis au judaïsme. Mais lorsque c'est le contraire, lorsque nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire que dans le rapport que nous avons avec eux, c'est eux qui sont bénéficiaires, et nous qui sommes déficitaires, on dit qu'il y a 70% de mariage mixte, alors à ce moment-là, ça ne veut plus rien dire parce qu'il n'y a pas d'échange. Au contraire, eux ils nous prennent 70%, et nous qu'est-ce qu'on leur prend? On leur prend rien du tout. Donc à partir de ce moment-là, ça n'est pas un échange qu'on est en train de faire. Si on n'est pas capable de l'échange, on se met à part. La Torah est venue nous a dit, sache de quoi tu es capable. La communication, si c'est l'échange, il n'est pas bénéfique pour nous. Si c'est apporter quelque chose, alors là c'est bénéfique pour nous. Si je suis capable de rester dans mon entité, c'est-à-dire que de parler un double langage en sachant que je parle un double langage, dans le seul but de lui apporter quelque chose, alors c'est bénéfique. Mais à partir du moment où j'échange, je ne peux pas dire que je n'ai pas laissé des plumes. Lorsque j'ai dit qu'on n'a pas de langage commun, lorsqu'on dit la limite des rapports, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir de rapport. C'est que la limite, elle est très simple. La limite des rapports, c'est à partir du moment où je me rends compte que je commence à être noeg comme lui, c'est-à-dire que quoi que je pense, je me conduis en tant qu'animal social vis-à-vis de sa conduite à lui, à ce moment-là, j'ai perdu. Voilà la limite.
Avec un goy qui se dit un croyant ou un agnostique, ou avec un goy qui est de l'islam ou de la chrétienté. Est-ce qu'il y a une différence ? Quelle doit être notre attitude ?
Il y a une différence, mais je vais vous dire. Il y a une différence au niveau de choses que nous avons en commun. C'est-à-dire le langage que nous avons en commun. Aujourd'hui, nous n'avons pratiquement plus affaire à des gens qui sont croyants. Nous avons affaire à des gens qui se disent croyants, mais qui agissent en agnostique. Rares sont ceux qui se disent croyants qui sont vraiment croyants. Je vais vous raconter quelque chose, je ne veux pas dire de nom, mais j'ai rencontré un jour dans une réunion quelqu'un de très haut placé dans la hiérarchie de l'Église. Et après m'avoir entendu parler, il m'a dit « Oh, vous savez, vous êtes jeune, c'est pour ça que vous parlez avec foi. Mais moi, j'ai 78 ans, je ne suis pas sûr vraiment de tout ça. » Ça veut dire que celui qui a la tête, il se rend compte que tout ça, c'est pour les jeunes. Mais les vieux, qui en ont vu pas mal, sont déjà plus intelligents et ils savent que tout est relatif. Et que tout ce qu'on raconte, ça veut dire que vous avez affaire à des gens qui ont une foi qui est tellement faible chez eux qu'elle ne peut pas se traduire en acte. Ils n'arrivent pas à la traduire en acte. Et dans la société, elle ne se traduit sûrement pas en acte. Vous ne trouverez jamais, puisque nous avons la séparation de l'Église et de l'État, vous ne trouverez jamais aucune conduite sociale qui dépend d'une croyance. Donc à partir de ce moment-là, la façon dont je m'insère dans la société, ça n'est pas que peut-être un jour je trouverai un goy qui est croyant et que avec lequel peut-être je peux... Ça n'est pas ça le cas. Le fait de vivre en Eretz Israël, d'appeler la plupart des décisionnaires, c'est une mitzvah de la Torah. Veya shavta ba, tu habiteras. Dans quelles conditions et à quelle époque, de là on peut discuter. La seule chose que je vais vous dire, je vais vous raconter ce qui s'est passé il y a un jour, un touriste américain, comme ça je terminerai, qui est allé voir celui qu'on appelait le Chazon Ish à Bnei Brak, qui était le Gadol Hador, le décisionnaire de la génération. C'était au commencement de l'État d'Israël. Et à ce moment-là, le message juif était non seulement pas populaire, mais était très peu marqué. Parce que vous savez que dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, on n'a pas voulu mettre le nom de Dieu, et que pour satisfaire les partis religieux, on a usé d'une périphrase qui en fait ne voulait rien dire. Et à ce moment-là, ce touriste est allé, c'est le Chazon Ish qui habitait à Bnei Brak, qui était encore un tout petit village. Et il lui a dit qu'il allait retourner en Amérique parce qu'il était venu seulement en tant que touriste. Et le Chazon Ish lui a dit, mais tu sais qu'il y a une interdiction de sortir d'Eretz Israël, à part pour trois choses. Pour étudier ou enseigner la Torah, pour se marier, ou alors si on ne peut pas avoir de parnassa. Ça, c'est-à-dire de gagne-pain. Celui qui n'arrive pas à vivre. Et lui, dans quelle catégorie tu te places ? Il lui a demandé le Chazon Ish. Il lui a répondu, mais j'ai entendu que si on ne venait pas en Eretz Israël pour s'établir, on venait seulement pour visiter, alors on avait le droit de ressortir. Le Chazon Ish lui a répondu, pendant 2000 ans, on a cherché des raisons pour aller en Eretz Israël, et toi, tu cherches des raisons pour partir. La question qu'a posée le monsieur, qui n'était pas une question, implicitement, hein, qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire ceci. Lorsqu'il a dit « Ma'avti toratecha kolayom isichati », il voulait dire qu'on peut nous imposer de partir en Eretz Israël à condition que là-bas, on trouve un public qui soit Yirei Shamayim, c'est-à-dire qu'on retrouve ce qu'on cherche. Il y a peut-être un moment où ça n'était pas le cas, mais aujourd'hui, il ne peut pas exister pour un juif qui veut le fait de ne pas trouver son cadre en Eretz Israël. Ça ne peut pas exister. Pour la bonne raison que tout ce qui existe en Chutz Laaretz, ça existe aussi en Eretz Israël. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est plus ? C'est un autre problème, mais ça existe aussi. Maintenant, moi je n'ai pas parlé du fait que Eretz Israël ce soit une barrière contre l'assimilation. Parce que ça c'est un argument fallacieux pour essayer de faire venir les gens d'Eretz Israël, de leur dire, il faut partir comme ça, on ne s'assimile pas. Alors il faut savoir qu'un billet d'avion ne coûte pas cher et qu'on ne peut pas mettre les juifs dans une boîte de conserve. Celui qui veut s'assimiler, s'assimilera. On ne va pas en Eretz Israël pour ça. La seule chose dont on a parlé, c'est qu'à partir du moment où on a un rapport faux, on ne peut pas baser ce rapport à l'infini et qu'on est condamné à plus ou moins brève échéance de quitter. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on en a conscience, on doit savoir que le seul endroit où un jour se jouera l'avenir du peuple juif, c'est en Eretz Israël. Maintenant, c'est pour ça qu'on a dit que si on peut recréer d'autres situations ailleurs, c'est vrai qu'on peut retrouver les mêmes besoins et les mêmes satisfactions. Seulement, comme nous savons que dans une période plus ou moins lointaine, mais plutôt plus ou moins courte, que nous l'espérons tous, le Machiav viendra, à partir de ce moment-là, on n'a aucune raison pour un juif français d'aller faire le détour par l'Amérique. La question qu'il avait posée, c'était ça. C'est, est-ce que je dois aller, puisque je vois que là-bas, il y a des gens qui ne sont pas Yirei Shamayim. Là-bas, il n'y en a pas plus qu'ici. Donc, de toute façon, cet argument, il ne tient pas. Maintenant, de trouver des arguments, et c'est ça tout le problème, d'essayer de convaincre les gens dans un but politique, à ce moment-là, les arguments deviennent fallacieux. Ce besoin-là, ça doit être un besoin personnel, au moment où un homme a compris qu'ici, il n'a plus rien à faire. Mais tant qu'il n'a pas compris ça, d'essayer de trouver des arguments pour persuader, de lui dire que là-bas tu seras à l'abri, un homme n'est à l'abri que de lui-même, il n'est pas, on ne peut pas lui mettre une barrière, on ne peut pas l'envelopper, on ne peut rien faire, il ne sera jamais à l'abri. Maintenant la dernière question, la dernière chose qu'il faut savoir, c'est que il y a le niveau individuel, il y a le niveau collectif. Au niveau individuel, il peut être possible pour chacun de s'arranger, de trouver une façon de s'arranger, et justement de trouver un rapport avec l'égoïm, que lui trouve un rapport vrai, puisque en vérité il est très minime, et qu'il se sente à l'aise. Le problème est un peu différent. C'est que même si au niveau individuel cette situation est possible, on doit savoir qu'elle ne peut pas durer, puisque nous voyons les dégâts qu'elle fait au niveau collectif. Et ça, c'est une responsabilité individuelle de chacun aussi. Il est vrai qu'on pourrait corriger cette responsabilité si on avait les institutions qu'on devrait avoir. C'est-à-dire si on pense qu'en France, le nombre des yeshivot est tellement petit qu'on ne sait même pas où elles sont, on ne sait même pas combien il y en a. Si on pense que 99% des juifs ne suivent pas une étude, quelle qu'elle soit, parce que celui qui n'étudie pas, celui qui n'entend pas, celui qui n'écoute pas, celui qui ne se préoccupe pas, il n'acquiert aucune indépendance. L'indépendance dont nous avons parlé, c'est la possibilité de se réaliser. Chayim kul chemayom, ça veut dire, prends l'ustensile qu'on t'a donné et essaye d'en faire quelque chose. À partir du moment où tu en fais quelque chose, il y a quelque chose qui t'appartient qu'on ne t'a pas donné. C'est toi qui en as fait quelque chose. C'est ça le chayim, c'est ça l'indépendance. Pour ça, il faut être capable de créer des institutions. Il faut être capable de créer une communauté. Il faut être capable de vivre. Puisqu'on voit ici aujourd'hui que c'est le fiasco qu'on n'est pas capable. La seule chose dont on est capable, c'est d'ouvrir des restaurants. Mais de faire quelque chose qui soit constructif, de faire qu'il y ait une communauté qui prenne en charge, c'est quelque chose à laquelle on n'est pas arrivé. Donc on est obligé d'arriver à une des deux conclusions. Ou on conseille aux gens de s'en aller parce qu'on n'a pas réussi. Ce que les autres ont réussi, on n'a pas été capable de le faire. Parce que ici, chacun tire la couverture à soi et chacun essaye de centraliser et d'essayer de réaliser ses ambitions personnelles. Ou alors, on recrée les institutions. Mais celui qui ne rentre pas dans ce problème-là, ni recrée les institutions, ni il s'en va, celui-là, il est en train, bien que lui peut s'arranger au point de vue individuel, il est en train de participer au suicide collectif de la communauté. Parce que de dire « Shalom alay nafshi », c'est-à-dire « Moi je me débrouille parce que de toute façon j'ai un commerce où je vois un goy tous les trois jours. Et en plus, j'ai absolument aucun échange avec lui. Et de toute façon, le peu d'échange que j'ai avec lui, ça ne me... » À partir du moment où on travaille dans cette optique-là, on participe au suicide de la communauté. Parce que les autres ne sont pas dans ce cas-là. Alors, ou on change les institutions, ou on s'en va. Mais de faire ni l'un ni l'autre, ça c'est une impossibilité. À mon avis, c'est ça ce qu'il faut retenir.